aujourd'hui Michel Lajarige. Je salue la présence de ton époux, le docteur Claude Lajarige, qui de façon prémonitoire, en février 2019, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait évoqué pour nous une grande pandémie, la peste. Ça s'intitulait « La peste, hier, aujourd'hui, demain ». En 2020, nous avions le Covid. Et ben voilà. Vous êtes tous les deux fidèles à Sarlat, où vous revenez tous les ans, presque en pèlerinage, et vous avez conservé de nombreux amis malgré la distance. En réalité, vous habitez Laon, ce qui n'est pas tout à fait la porte à côté. Michel, nous vous souvenons très bien de votre belle conférence qui était consacrée à Alexandre Dumas. C'était un écrivain prolixe, dont la vie elle-même fut un roman, et qui a enchanté notre jeunesse, même si vous en convenez, cher ami, car vous avez été comme moi professeur de lettres, à l'époque, nos professeurs ne recommandaient pas la lecture d'Alexandre Dumas, les choses se sont arrangées depuis, et les historiens pas davantage. Vous êtes d'accord. Aujourd'hui, c'est un sujet très original que vous allez aborder, les micronations. Confessons, comme beaucoup d'entre nous, je confesse que nous n'y connaissons rien et que nous avons pour certains jamais entendu parler. C'est donc avec une grande curiosité que nous vous écoutons.
Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est avec plaisir donc que je vais vous parler de ce sujet, les micronations. L'idée m'en est venue en lisant un ouvrage, puis ensuite plusieurs dans la foulée, de M. Bruno Fuligny, qui est maître de conférence à sciences politiques, qui est historien, écrivain, et qui est un haut fonctionnaire, puisqu'il est responsable de la mission éditoriale de l'Assemblée nationale. Mais c'est un monsieur qui s'intéresse aux sujets qui sortent un peu de l'ordinaire, et c'est cela qui m'a tentée. Alors, effectivement, ce thème est placé sous le signe de l'originalité, de la liberté d'être et de penser, qui sont souvent quand même assez encadrés dans nos sociétés très normées, très normatives, et c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, et je vais vous en parler. Alors, au temps des grandes découvertes, vous le savez, nombre d'explorateurs ont conquis pour leurs souverains des continents nouveaux, ce qui n'a pas empêché certains parmi les marins ou des pirates de prendre possession de territoires minuscules, de se les approprier et de se proclamer roi, empereur et d'y faire régner leur propre loi, comme si finalement être roi était quelque chose de particulièrement intéressant. Bon, ce sont des états éphémères qui ont disparu très vite parce qu'ils ont été récupérés et absorbés par des états plus puissants. Alors aujourd'hui, alors que la planète est cartographiée et connue de partout, dans ses moindres recoins, bon, on pourrait penser que ça n'existe plus. Nul ne peut se proclamer comme ça le chef d'un État, d'un territoire, si petit soit-il. Mais c'est oublier qu'il y a toujours eu des excentriques, des originaux, des rebelles, des insatisfaits, prompts justement à adopter des comportements peu orthodoxes. Et de ce fait, un certain nombre d'individus a franchi le pas, alors assez récemment quand même, hein, disons, va dater de 80 à 50, une cinquantaine d'années, puisqu'on recense à l'heure actuelle dans le monde plus de 400 monarques ou présidents qui exercent leur pouvoir dans ce qu'on appelle des micronations. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup. Alors, c'est quand même un sujet intéressant qui mérite réflexion. Alors, justement, cette réflexion s'appuiera sur les points suivants. Alors, tout d'abord, la définition et les caractéristiques des micronations. En deuxième partie, l'illustration par certains exemples dans le monde qui peuvent justement expliquer, il y a diverses raisons, donc on prendra certains exemples. Et puis, dans une troisième partie, on s'intéressera plus précisément à des micronations qui existent en France, hein, qui est quand même notre sujet. Et puis, nous conclurons. Alors, tout d'abord, donc, la définition et les caractéristiques, des micronations. Alors, c'est un terme qui est venu de l'anglais. Malheureusement, il y a beaucoup de mots qui nous viennent de l'anglais maintenant et qui est apparu dans les années 90. Donc, ouais, c'est tout neuf, hein, c'est tout récent. Alors, une micronation. Je vous donne la définition, je cite, c'est une entité territoriale créée par une personne ou par un petit groupe qui prétend au statut de nation indépendante ou qui en présente des marques, mais qui n'est pas reconnue comme telle par les nations officielles ou par les organismes internationaux. Elles ne doivent donc pas être confondues, les micronations ne doivent donc pas être confondues avec les États de petite taille qu'on appelle aussi des micro-États, donc c'est pas la même chose, micronation, micro-État, que vous connaissez comme Andorre, Saint-Martin, Monaco, le Liechtenstein, le Vatican, etc. Alors, on peut adopter nos orthographes, soit on colle les deux mots, soit on met un trait d'union entre micro et nation. Alors, le mot a un synonyme, ça peut être appelé une cryptarchie, donc du grec crypto qui est caché, et archie, pouvoir, autorité. Alors, évidemment, ces États n'apparaissent sur aucune carte officielle, puisqu'ils ne sont pas reconnus de manière officielle. Alors, quelles sont leurs caractéristiques? Alors, il y en a plusieurs. Les micronations ne peuvent pas toutes les avoir. Elles peuvent n'en avoir qu'une, deux ou quelques-unes, ou en totalité. Hein. Mais, disons, on les regroupe selon ses traits. Alors, généralement, elles sont de petite taille, hein, avec quelques exceptions que nous verrons. Alors, elles produisent, elles peuvent produire, et dans la plupart du temps, elles le font toutes, elles peuvent produire des signes de souveraineté. Alors, elles émettent des timbres, de la monnaie, des médailles, des médaillons, des drapeaux, elles composent des hymnes nationaux, elles s'écrivent une constitution, elles se distribuent des titres de noblesse, etc. Bon, tout ce qui peut caractériser un État. Elles peuvent avoir érigé une ou des constructions personnelles, alors des bâtiments spécifiques, des monuments, des statues, il y a tous les cas de figure. Alors pour les plus récentes, évidemment, elles peuvent avoir un site internet, et les plus récentes en général en ont. Alors la notion de territoire physique n'est pas essentielle. Il n'y a pas besoin d'avoir un territoire physique pour être une micronation. Une micronation peut avoir un territoire virtuel ou spirituel. Certaines micronations ont des velléités d'indépendance. Il n'y en a pas beaucoup quand même, très peu en fait. Parce que malgré tout, si elles sont tolérées, elles sont étroitement surveillées par les gouvernements constitués, évidemment. Certaines micronations aussi ont été créées pour donner le bon exemple aux États officiels qui, selon elles, ne se comportent pas comme il convient, en particulier sur des points de l'écologie. On en verra des exemples. Alors d'autres sont beaucoup plus fantaisistes et folkloriques, hein, voire même totalement délirantes. Hein. Et ces micronations-là misent essentiellement sur la bonne humeur, la joie de vivre ensemble. Alors en général, donc, les gouvernements tolèrent ces entités tant qu'elles ne dépassent pas certaines limites. Et surtout, la grande limite, c'est tant que leurs ressortissants paient leurs impôts. Vous faire ce que vous voulez, mais payez vos impôts. Alors d'ailleurs, on verra un exemple dans ce cas où malheureusement la micronation a disparu à cause de cela. Mais attention, ça n'est pas un hasard. Il n'y a pas de micronation en Corée du Nord. Vous pouvez comprendre pourquoi. En Chine, il n'y en a pas non plus. En Russie, hein, ou dans n'importe quel autre pays soumis à un régime autoritaire. Ça n'existe pas. Et ça peut se comprendre. On verra pourquoi. Alors, on va illustrer notre propos par quelques exemples pris dans le monde, et je vais par ordre de création. Donc, je vais parler d'une micronation, la première qui a été très connue. Elles sont, je vous ai dit tout à l'heure, en général de petite taille, mais celle-ci est assez importante. C'est la micronation de Hutt River, qui est en Australie. Alors, l'Australie est un continent assez vaste. Elle a 75 km² de superficie. Donc c'est une des plus grandes. Il y en a qui sont minuscules. Alors elle a été créée en 1978 sur l'exploitation d'un certain Léonard Casley, qui était cultivateur, agriculteur, qui cultivait du blé, à la suite de limitation de quotas de récolte. Or lui, comme il avait un grand territoire, la limitation de ses quotas de récolte de blé aurait amené la ruine immédiate de son exploitation parce qu'il en récoltait beaucoup plus et qu'il ne pouvait donc pas en faire plus. Donc, en désaccord avec cette décision, il a protesté évidemment sans qu'on l'écoute et donc il est allé fouiner dans des vieux textes où ça a été quand même assez facile, hein, où il a découvert alors un texte très ancien qui date de 1482, où finalement la loi, apparemment, lui donnait le droit d'obéir non pas au gouvernement fédéral qui venait d'être créé d'Australie, mais à la reine du Commonwealth qui avait eu l'Australie sous son autorité, qui l'avait encore, c'est-à-dire la reine Élisabeth. Alors c'est ce qu'il a fait, ni une ni deux, c'est ce qu'il a fait. Bien entendu, le gouverneur de Perth, puisque l'exploitation se trouve dans l'ouest du côté de Perth de l'Australie, a fait appel, a fait des procès, etc. Donc Léonard Casley a fait lui appel au gouverneur fédéral, et finalement, devant ce document indiscutable, indéniablement, évidemment il l'avait diffusé, il a eu gain de cause. Mais du coup, il y a deux autres exploitants de cette parcelle qui l'ont rejoint et qui ont profité de cette occasion. Alors pendant ce temps-là, bien entendu, inutile de vous dire que le gouverneur de Perth continuait, avec tous les moyens qu'il pouvait mettre en œuvre, continuait à réclamer ses impôts. Donc ils n'ont plus rien payé. Il s'est proclamé prince donc de la micronation Earth River. Il s'est déclaré prince Léonard Ier. Il a, et sa femme Shirley, princesse, ils ont fait construire des statues, un espèce de throne kitsch, ils ont constitué un petit musée en collectant des choses de briques et de brocs, et ça a eu du succès immédiatement. Alors Bruno Fellini, qui étudie ce cas, explique ce phénomène par le fait qu'en Australie, c'est un pays tout neuf, tout moderne, il n'y a aucun musée, aucune exploitation historique, ça a plu aux gens, et en plus, comme ils ont émis des timbres, des cartes postales, des petites babioles, des colifichets, immédiatement, alors que cette petite micronation contenait 67 habitants, il y a eu des pics à 10 000 visiteurs, etc. Et ils ont fait fortune, du coup ils ont arrêté l'exploitation du blé et ils se sont investis dans les visites, en pseudo-visites, etc. Bon, un peu carnavalesque. Bon. Malheureusement, le temps a passé, Léonard a vieilli, la reine Élisabeth est morte. Donc le gouverneur de Perth a immédiatement trouvé un autre moyen d'appui pour réclamer ses impôts. Le Covid est arrivé. Le pauvre prince Léonard est mort, la princesse Shirley aussi. Leur fils a hérité, mais s'est trouvé en butte à d'énormes difficultés de succession. En plus, il devait peut-être pas être très enthousiaste hein, dans l'héritage de ce titre. Et l'État lui a réclamé un chiffre astronomique d'arriéré d'impôts sur toute la période depuis que... Donc, fin 2020, en 2021, cette micronation a cessé d'exister. Alors, donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y en avait 401. En fait, il y en a 400, puisque en 2021, mais 400, ça fait encore beaucoup. Alors, nous avons vu une micronation très vaste, enfin très vaste, 75 km carrés, pardon. La majorité de ces entités sont très petites, hein, à l'exemple de la République de Molossia, qui est en fait réduite à une petite maison et à son jardin. Donc, oui, c'est pas très grand. Hein, près de Dayton, dans le Nevada. Alors, en 1999, un jeune garçon, jeune homme, Kevin Moreau, a créé cette micronation dont il est le président. Mais Kevin Moreau doit quand même avoir quelques problèmes psychologiques. Hein. Je pense qu'il doit être quand même un petit peu atteint de paranoïa. Alors il se présente comme le président d'une république bananière indépendante. Et il a immédiatement déclaré, en 1985, la guerre à l'Allemagne de l'Est. Et quand l'Allemagne de l'Est a disparu, il a persisté. Parce qu'il a dit, de toute façon, les gens qui étaient restés là-bas étaient sous influence soviétique, donc c'était certainement des méchants qui allaient les attaquer. Alors, il est donc toujours en guerre contre l'Allemagne de l'Est. Alors, il a quelques adeptes. Et en fait, ces petits groupes essaient de le déstabiliser, de le destituer, mais ils n'y arrivent pas. En fait, ils s'attaquent surtout par intermédiaire de sortes de jeux de rôle, vous voyez. Hein. Donc, ça relève plutôt de la gaminerie et de la fantaisie qu'autre chose. Mais il n'empêche qu'il a, devant la porte de son jardin, institué une frontière. Si on veut visiter sa micronation, c'est-à-dire la petite maison, hein, il faut montrer son passeport. il faut changer des devises. La visite dure 45 minutes. Alors, elle ne doit pas être passionnante parce qu'on compte en général 10 visiteurs dans l'année. Alors, du coup, ça l'a vexé un peu. Alors, il s'est dit, il faut que j'agrandisse mon territoire. Et il a décidé de prendre possession, donc, de la planète Vénus. Ça coûte rien. Il n'est pas obligé d'y emmener des visiteurs. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est une autre motivation. Hein. C'est un autre exemple. Alors, dans certaines villes, vous la connaissez peut-être d'ailleurs, cette micronation, il existe des petites zones qui ont pris leur indépendance, et une des plus célèbres est Christiania, dans la ville, dans la capitale du Danemark, au cœur de Copenhague. Alors, en fait, c'était une ancienne caserne proche de la démolition. Elle a été prise d'assaut par des hippies au moment du mouvement hippie, qui se sont installés en 1971. Alors, ils ont planté un drapeau rouge, orné de trois points, qui sont les trois I de Christiania. Ils ont proclamé cette zone libre, et ils se sont autogérés très tranquillement. Alors, en 1973, ils ont obtenu leur autonomie locale, et ils ont fondé leur monnaie, le loon. Alors le loon, c'est 50 couronnes danoises, donc c'est pas grand-chose, ça doit faire 20 centimes d'euros ou quelque chose comme ça. Alors, la circulation automobile, les armes, toute activité violente ou polluante était interdite, sauf la circulation de certaines herbes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était vraiment aller très loin. Alors, au fil du temps, quand même, ils se sont un peu assagis et ils ont accepté des opérations de police parce qu'à un moment donné, ça avait atteint quand même un pic de trafic de drogue dure qui était devenu assez inquiétant. Le gouvernement danois, glissant vers la droite, a voulu en 2006 mettre un terme à cette communauté, au statut de ville libre. Mais finalement, ça a entraîné tout un mouvement de contestation, alors non seulement de la part des habitants, mais de la part aussi des habitants de Copenhague, qui trouvaient que c'était amusant, etc. Alors finalement, ils ont eu le droit de racheter leur squat au gouvernement, et ils continuent de s'administrer tranquillement, où ils mènent une vie tranquille. Alors on a le droit de rentrer, mais de pas prendre de photos. Ce sont des photos qui ont été prises sur Internet. Après, on doit regarder simplement, parler si on veut avec les gens, mais c'est tout. Alors, la zone, c'est devenu une petite zone d'abstraction, comme la petite sirène. Quand on va à Copenhague, on va voir la petite sirène, on va voir le parc de Tivoli, et on va voir la zone de Christiania en face, avec ses petits hippies bien tranquilles. Alors, un autre cas de ville libre célèbre, c'est la République d'Usupus. Alors, à Vilnius. Alors, Usupus, c'est un quartier, alors c'est un petit quartier, mais c'est un peu plus grand pour Christiania quand même, d'environ 60 hectares, vous voyez. Alors, il est séparé de la vieille ville de Vilnius par un méandre de la rivière Vilnia. Il était resté longtemps à l'état sauvage, un peu pas exploité durant longtemps, mais charmant, et il était souvent d'abord des lieux de promenade, et puis des lieux que les peintres aimaient bien, un petit peu dans le genre Montmartre, vous voyez, au moment du début où c'était encore très bucolique. Et finalement, le 1er avril, la date est quand même significative, hein, 1er avril 1998, les résidents qui s'étaient installés là déclarent la création de la République d'Usupus. Alors, ils élaborent une constitution qui est écrite par deux poètes, elle est écrite en vers, des lois, un drapeau qui représente une paume de main dans un cercle sur fond blanc. Et selon les saisons, le cercle change de couleur. Alors, il est bleu en hiver, il est vert au printemps, il est jaune en été et il est rouge en automne. Voilà, ça change de couleur. La République a sa monnaie, le rouge, hein, son journal, dont le rédacteur en chef est aussi le ministre des Affaires étrangères. Elle a une armée de 12 hommes. Hein. Elle est dirigée par un président nommé à vie et une reine qui est élue tous les ans. Genre reine de beauté, voilà. Voilà, les femmes, quand même, on les laisse un peu à l'écart. Mais c'est une belle fille, toujours. La République d'Usupus, sur la place centrale, avait installé un œuf géant puis on a trouvé que ça faisait quand même pas très joli. Alors le 1er avril, toujours un 1er avril 2002, l'œuf a été remplacé par un ange soufflant dans une trompette. Alors qui, semble-t-il, est une œuvre d'un sculpteur célèbre, mais qui, aux yeux de certains, pour ceux qui connaissent un peu le film, représente l'ange qui sonne une trompette dans le film de Wim Wenders, Les ailes du désir. Voilà. Le 1er avril, c'est le jour de la République. Chez nous, c'est le 14 juillet. À Eusupis, c'est le 1er avril. C'est une grande fête qui est organisée. Et alors, elle est fréquentée au-delà de toute espérance, parce que la bière est distribuée gratuitement toute la journée. Voilà. Alors, à noter, et c'est quand même intéressant, que la République d'Eusupis est jumelée avec la République de Montmartre. C'est quand même des relations. Alors, certains de ces États sont à la limite de la légalité. Bien entendu, dans toute cette bande-là, avec des motivations diverses, il y a quand même quelques escrocs qui arrivent toujours à s'infiltrer quelque part. Alors, soit ils sont à la limite de la légalité pour ça, ou soit ils sont à la limite de la légalité parce qu'ils désirent faire sécession. Ils désirent réclamer leur indépendance et être reconnus comme État officiel. Alors évidemment, ceux-là, ils sont surveillés de très très près et rappelés à l'ordre. Alors c'est le cas de la principauté de Seborga, qui est près de Vintimille, en Italie. Alors en fait, c'est toute une histoire compliquée qui a permis la naissance de cette micronation. C'est une ancienne principauté abbatiale qui appartenait aux abbés de l'île de Lérins. Vous savez les îles qui sont... Et au Moyen-Âge, c'est une très très ancienne abbaye, elle avait ses propres lois, elle avait sa monnaie, donc elle était totalement autonome, totalement indépendante, à l'intérieur d'un pays qui n'est pas encore l'Italie, puisque au Moyen-Âge, l'Italie n'est pas constituée, c'est beaucoup plus tardif. C'est une multitude de petits États, quand encore il y a des États. Alors, un certain Giorgio Carbone, s'appuyant sur ce fait, parce qu'aucun document n'atteste de la renonciation à l'indépendance de l'abbaye, il y a un roi de Sardaigne qui, en 1729, a essayé d'acheter le territoire, mais comme il n'a jamais payé, donc cet achat n'a jamais été légalisé. Et puis ensuite, les ducs de Savoie, qui avaient la mainmise un petit peu sur ces parties de l'Italie, avaient bien essayé de se l'approprier, mais il n'y a jamais eu de document de renonciation. Alors ils s'appuient sur le fait, jamais à Seborga, on a renoncé à notre indépendance, donc on la veut. Et il la réclame fermement. Alors, c'est un État, donc il s'est proclamé prince en 1963, déjà. C'est un État de 14 km², 300 habitants. Alors, ils ont leur drapeau, leur constitution, leur monnaie, le Luigino, du nom du prince, leur timbre, leur passeport. Donc, quand vous entrez à Seborgia, il faut montrer votre passeport, parce que vous êtes dans un pays étranger. Et, alors, c'est là où ça a été un sujet de friction, leur propre plaque minéralogique pour leur voiture. Et alors, à un moment donné, le prince Giorgio a voulu remplacer les plaques minéralogiques italiennes par les plaques de Seborgia. Alors, c'est là où le gouvernement italien a dit stop, ça suffit les bêtises, et donc... Ça s'est arrêté là, mais ils continuent à poursuivre, à réclamer leur indépendance. Alors d'ailleurs, en 2008, le prince Giorgio Ier avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir l'indépendance de Seborga. Bon, il n'est pas arrivé. Alors, la fête nationale est le 20 août, c'est le jour de la Saint-Bernard, et il est possible, moyennant forte finance, attention, de se faire adoubé chevalier du Saint-Sépulcre, vous avez un diplôme à cette occasion, et donc voilà, vous faites partie de la haute catégorie sociale de la principauté. Alors depuis 2019, le prince est élu pour 7 ans, et il règne avec l'aide de 9 ministres et de prieurs. Alors à cette date, Giorgio étant plus âgé, a laissé la place à la princesse Nina Menegatto, qui est entrée en fonction. Et donc vous voyez le portrait ici, là voilà la princesse. Alors parmi toute cette bande d'exaltés un peu d'hurluberlus, il y a des anticonformistes. Alors il y en a un, et il ne manque pas d'imagination, c'est celui qui a créé la République roulante de Kugelmugel. Donc il peut faire rouler son État. Il a créé une monnaie qui peut le faire rouler. Alors en 1972, l'artiste autrichien Edwin Liebburger construit une sphère creuse de 50 mètres carrés qui est habitable, donc qui Kugel en allemand. Elle est habitable à l'intérieur et donc il va y vivre et il la déclare République universelle. Alors l'œuvre est achevée le 17 novembre 1974. Alors il l'installe quelque part devant une butte et il met un petit pont-levis pour aller à la butte qui se dit Mügel en allemand, d'où Kugelmügel, la boule, la sphère creuse sur la butte. Alors évidemment, le gouvernement autrichien n'apprécie pas du tout. Alors, vous savez, les Autrichiens sont quand même stricts, ils ne sont peut-être pas comme les Coréens du Nord ou comme les Chinois, mais en fait, ils sont quand même assez stricts. Alors, ils n'apprécient pas du tout la plaisanterie et ils poursuivent l'artiste. Il fait l'objet d'une arrestation. On l'envoie même subir des examens psychiatriques. Il est détenu 3 semaines, mais il ne se laisse pas faire, il se défend. Et devant le tribunal, sa défense est imparable. Alors voilà ce qu'il dit. Ma sphère repose sur un point. Or, un point n'est pas une surface plane. Donc, Kugelmügel n'est pas en Autriche. Et donc, bah, il gagne. Alors, du coup, il déménage de l'endroit où il était parce que il y a des communes qui ont trouvé que c'était un moyen intéressant de se faire de la publicité, etc. Donc, il est invité un peu partout. Donc, il s'installe un petit peu partout, là où on veut bien l'accueillir. Et actuellement, la sphère a fini son voyage itinérant et est installée, s'est fixée dans le parc national du Prater, si vous connaissez Vienne, c'est là où il y a ce grand parc national de toutes sortes, manèges, etc. La grande roue du fameux troisième homme du film, voilà. Et elle figure là en tant qu'œuvre d'art. Voilà, donc vous voyez, là c'est un fantaisiste, on est dans la haute fantaisie. Alors, aussi fantaisiste est au Danemark, décidément les Danois, c'est le royaume d'Eleor. Alors Eleor, c'est une forme danoise de l'île d'Or, vous voyez, c'est une île. Alors, non loin des côtes du Danemark. Alors, l'île avait été achetée en 1944 par des universitaires et des professeurs adeptes de méthodes pédagogiques modernes, et ils y avaient établi un camp de vacances où ils y allaient avec des étudiants qui étaient intéressés. Mais il y a eu des effondrements nombreux, et voilà la forme qu'elle a actuellement. Avant, elle n'était pas comme ça. Et l'île est inondée pratiquement en permanence. Elle est inondée en permanence, sauf durant une semaine, en août. Alors, une monarchie constitutionnelle y a été établie qui fonctionne 7 jours par an. Quand l'île n'est pas... Quand l'île... Et alors voilà, quand c'est inondé, vous voyez ce que ça donne. Alors voilà le roi sur son territoire. Alors, 7 jours par an, au moment où il y a des bandes de sable et de rochers qui sont mis un petit peu à nu et qui forment le territoire. Alors, ils ont 51 semaines de vacances et une semaine d'occupation des lieux où ils se retrouvent, évidemment, étudiants et professeurs. Alors, ils sont en uniforme, on les voit ici, là, où ils s'amusent comme des petits fous sur les dunes de l'île pour célébrer leur état. Alors, le royaume, c'est tout petit, 15 000 mètres carrés, c'est tout petit. Alors, ils ont quand même, pour leur semaine de vie démocratique, ils ont un drapeau, ils ont un monarque, actuellement, c'est Léo III, ils ont leur monnaie, ils ont leur sport national, le cricket, en référence au bruit que font les articulations à la réception du ballon en cuir qu'ils se lancent. Alors, ça ne doit pas être avec douceur. Et leur devise, ils ont une devise, « Aidons-nous les uns les autres ». Voilà, une belle devise. Et ils ont inventé une langue. La langue officielle, c'est l'interlangue. Interlangue, c'est une langue inventée à partir de racines latines. Donc voilà, alors quand ils sont ensemble pendant 8 jours, ils parlent... Voilà. Alors... Ce point-là est important parce que pour certaines micronations, posséder sa propre langue, c'est le summum. C'est le summum c'est l'apothéose finalement de la formation d'un état particulier. C'est un signe supérieur dans la hiérarchie des micronations. Alors, cela n'a pas échappé à un certain Robert Ben Madison, qui, à l'âge de 14 ans, a perdu sa maman. Et s'est enfermé non seulement dans son chagrin, mais il s'est enfermé pendant un certain temps dans sa chambre, dans sa maison de Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, et à 14 ans, donc c'est lui qui a inventé le mot micronation d'ailleurs. Et il a créé, enfermé dans son chagrin, mais son intelligence et son inventivité continuant de fonctionner, il a créé le royaume de Talossa, parce qu'en finnois, Talossa, ça veut dire chambre. Donc son royaume, c'est sa chambre. Voilà, au départ. Alors qu'il se limite au départ à cette chambre. Et puis après, quand même, il s'est dit, c'est un peu petit, puis je suis tout seul, alors il faudrait que j'agrandisse ça. Donc il a revendiqué une partie de la ville de Milwaukee, évidemment, qu'on lui a pas donné. Un territoire en Antarctique, ça coûte rien, il y avait personne dessus. Une île au large de Saint-Malo, il avait vu qu'il y avait personne non plus, donc il a dit, elle m'appartient. Et en 1996, il a ouvert un site dédié à son royaume, et par le biais d'Internet, il a eu des recrues, et alors ils correspondent beaucoup de manière virtuelle. Alors, ils sont actuellement, comme membres de ce royaume de Talossa, ils sont 543 citoyens, pardon, de par le monde, et ils correspondent par Internet. Alors, ils ont l'État, et ils ont un drapeau, un hymne, une devise. La chambre d'un homme est son royaume, évidemment, Talossa. Et surtout, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'en 1980, il a créé sa langue, le talossien. Le talossien, alors, c'est une langue, et c'est pas quoi, n'importe quoi, c'est une langue qui est basée sur le gallo-romain, l'occitan, le roumain. Ça fait déjà un mélange de trois langues, qui possède 35 000 mots de vocabulaire, avec une grammaire complexe, un alphabet de 32 lettres, et qui est reconnu par des organismes linguistiques internationaux comme étant une langue intéressante et riche, inventée et très active. Donc c'est une langue vivante, en fait. Elle n'est pas morte du tout, et elle circule, donc, par le biais de ce petit royaume réservé à une chambre. Alors donc, c'est une des plus anciennes micronation virtuelle, puisqu'elle a commencé à fonctionner comme ça. Alors attention, parce que vous avez des micronations virtuelles où les citoyens ne sont en communication que par le biais d'Internet, ils sont un peu dispersés partout, c'est un peu le cas là, où vous en avez quand même des micronations qui ont un site avec Internet, ils ont quand même Internet. Mais il ne faut pas les mélanger. Là, c'est une micronation virtuelle, donc vraiment totalement virtuelle. Alors, encore plus fantaisiste, est le royaume d'Helgaland-Vergaland. Alors, il a été créé, ce royaume, en mai 1992, par deux artistes. Vous voyez, les artistes sont quand même très souvent partie prenante, ou pour écrire des constitutions, ou pour se mêler de quelque chose. Alors, il a été créé en 1992 par deux artistes suédois. Et, alors, vous allez voir l'étendue du territoire, c'est une micronation mais virtuel dans le sens où finalement ça n'existe pas. Elle s'étend sur toutes les frontières des pays. Donc quand vous êtes à une frontière, quelque part, ben vous êtes en Helgaland, Vergaland, sur toutes les frontières des pays. Dans tous les interstices de transition, comme par exemple la transition entre le sommeil et l'éveil. Quand vous commencez à vous éveiller, vous êtes en Helgaland, Vergaland. Les espaces en dehors des eaux territoriales. Il y en a quand même beaucoup. Et dans les limbes, ça ne coûte rien. Tout le monde peut devenir citoyen de cette monarchie. Bah, évidemment, vous avez vu là. Et ceux qui décèdent en font automatiquement partie. Voilà. Alors, c'est bien, ça peut consoler. Le royaume a deux monarques, donc les deux artistes en question, Michael Ier et Leif Ier. Alors, le gouvernement suédois n'avait quand même pas trop apprécié la plaisanterie. Alors, ils ont quand même un drapeau, une constitution, un blason, un hymne national, mais leur ambassade nationale a été placée, c'est plus prudent, elle n'a pas été placée en Suède, elle a été placée à New York, dans une galerie d'art. Voilà, la galerie Thomas Nordenstad, voilà, à New York. C'est là où ils ont leur base et leur... Donc, vous voyez, il y a quand même des farfelus dans le lot. Mais c'est pas fini, on a encore d'autres motivations. Alors, chose un peu plus sérieuse maintenant, certains de ces farfelus ont des motivations qui vont au-delà de la plaisanterie, de l'humour. C'est le cas de Nils Vermersch, habitant de Sainte-Juliane en Flandre occidentale, et il en est un exemple. Alors, en août 2008, il décide, avec quelques amis, de créer une micronation. Bon, ils sont un groupe de copains, ils décident de créer une micronation. Alors, pour rire, pour s'amuser, il revendique 5 îles enneigées et volcaniques de l'Antarctique. Alors, il envoie des courriers au secrétaire général des Nations Unies, et pour revendiquer ces territoires, et aux 45 représentants du signataire du traité de l'Antarctique. Et comme il n'a aucune réponse, eh bien il dit qu'il dit mot consent, c'est notre territoire. Voilà, c'est notre territoire. Donc, il crée le grand-duché de Flandre-Anzis, hein, puisque le Sainte-Juliane est en Flandre, en Flandre belge, il crée le grand-duché de Flandre-Anzis, et la maison de Niels en devient l'ambassade officielle. Alors là, pareil, on se dote d'une constitution, d'un drapeau, d'un hymne national, de ses propres cartes d'identité, d'un journal. Bon, alors au départ, le groupe d'amis s'amuse un petit peu hein, à imiter les institutions politiques, les réunions, à se moquer des politiques, à se distribuer des titres. Et puis, depuis quand même toujours, Niels Vermaersch était intéressé par l'écologie. Alors il s'est dit, bon, c'est bien de plaisanter, de s'amuser entre amis, mais il faudrait peut-être quand même être un petit peu plus sérieux. Et les alarmes sur le réchauffement climatique l'incitent justement à être plus attentif et à se montrer un petit peu plus ouvert à certains problèmes. Alors, lui et ses amis ouvrent un site web dont la devise est « Aucun humain, rien que la nature ». Alors voilà leur devise. Pour montrer que le territoire doit être protégé normalement de toute pollution et exploitation industrielle abusive. Alors, il dit, donc il cite, « Aujourd'hui, Flandre-Anzis est le seul pays du globe à militer pour que son territoire reste inhabité. » Alors, tout le monde réclame des habitants, ben nous, on n'en veut pas, on n'en veut plus, hein, on veut plus d'habitants. « Nous ne voulons voir sur nos îles, sur nos colonies, que des manchots empereurs. Hein. » Tant qu'il n'y aura que des manchots, on sera très content. Alors, ils distribuent, toujours par le biais d'Internet et par leurs correspondants, parce qu'évidemment, il y a d'autres micronations en plus qui sont intéressées par ces gens-là, ils communiquent entre eux, et puis il y a des adeptes qui sont intéressés aussi par les sujets écologiques. Donc, ils donnent des conseils sur les économies d'eau, sur les émissions de CO2, sur le recyclage des déchets, tout ça, c'est de nos intérêts. Et grâce à des réseaux sociaux, donc, des citoyens étrangers se sont joints aux Belges et ce grand-duché de Flandre-Anzis compte actuellement 741 citoyens pour 71 nationalités. Hein, ouais, ça fait une espèce de mouvement universel. Ah, ça, c'est sympathique finalement. Hein. Et alors, ils ont des ambassadeurs par le biais justement de. Alors, par exemple, le baron, alors il s'est donné un titre, évidemment, c'est pas son nom, le baron Dimitrios d'Ambassinas de Melona, hein, il s'est donné ce nom-là, c'est le titre qu'il s'est choisi, il est ambassadeur en Grèce, et quand il participe à des marathons, parce que c'est un coureur de marathon, il porte un t-shirt aux couleurs et aux armes du grand-duché de Flandre-Anzis. Alors, ils envoient aussi des courriers aux chefs d'État qui sont pas raisonnables, qui sont pas sérieux. Ils inondent de lettres, hein, ils inondent de courriers. Ils envoient des courriers officiels. Alors, entre autres exemples, le ministre japonais a reçu un courrier sévère après avoir pris la décision de rejeter les eaux contaminées de Fukushima dans la mer. Alors là, il a reçu un courrier sévère. Et alors, un certain monsieur Macron a reçu une missive lui reprochant de ne pas tenir ses engagements européens concernant la diminution des gaz à effet de serre. Hein, lui aussi, il a reçu une lettre sévère. Bon, on ne sait pas s'il a répondu, on ne nous le dit pas. Bon, maintenant, évidemment, comme toujours, il y a quelquefois un verre dans le fruit, certains de ces excentriques voient dans la création des micronations une opportunité pour arrondir les finances, sur un bon moyen. Alors, nous avons d'abord un premier exemple, c'est l'exemple de la principauté de Seeland. Voilà. Alors, ça s'appelle un fort Monzol, c'est une plateforme de la DCA pendant la guerre. Alors, elles ont toutes été abandonnées. Et celle-là, elle est dans aucune eau territoriale. Elle appartenait à personne, en fait. Ni la Grande-Bretagne, ni personne ne pouvait la revenir. Alors, il y a un petit malin qui, évidemment, s'en est emparé tout de suite. Il s'est installé là-dessus. Le 2 septembre 1967, dont Roy Betts et son épouse John, ils fondent la principauté de Sealand, donc le territoire de la mer. Alors, ils remettent tout en état, ils se donnent un drapeau, des timbres, ils font une monnaie, et ils vendent des passeports, et ils songent à écrire une constitution. Mais comme il n'est pas doué pour écrire, il fait appel à un avocat allemand pour lui écrire sa constitution. Alors l'autre, qui est certainement pas plus honnête que le patron qui l'a engagé, profite d'un voyage du couple pour s'emparer du pouvoir. Coup d'État à Sealand. Il s'empare du pouvoir et, pour être sûr de son coup, il prend l'enfant du couple, le jeune Michael, qui avait été laissé à sa surveillance, le prend en otage. Vous voyez, ça commence à mal tourner. Alors, évidemment, ni une ni deux, le prince Roy monte un commando, une expédition au commando, il reprend sa principauté et il emprisonne le traître. Tout au fond du fort, là, dans une prison. Il emprisonne le traître et, malgré tout, il est bien obligé de le relâcher sous la pression de l'Allemagne, parce que c'est un Allemand, et c'est pas un pays, là, Sealand, donc il a rien, aucun pouvoir diplomatique ni rien. Il est bien obligé de le relâcher, alors il l'envoie retourner en Allemagne. Et du coup, le prince décide, devant la gravité des dangers qui risquent de peser sur lui, il décide de s'entourer d'une force armée. Alors écoutez bien, l'unité spéciale, composé de 6 hommes et d'un chien loup. Un peu plus tard, Roy abdique en faveur de son fils qui a grandi, le prince Michael, alors qui sûrement dans la foulée de son père a bien compris l'intérêt qu'il peut tirer de la situation. Et comme il y a eu un incendie qui a abîmé un peu les choses, il réaménage la plateforme, modernise la plateforme et il en fait un paradis numérique qui abrite dans ses piliers que vous avez vus tout à l'heure des sites illicites et des casinos en ligne. Donc il en fait une espèce de casino, un monde de jeux. Et ça doit rapporter beaucoup parce que le visa et le transport, parce qu'il faut arriver en bateau puis se faire élitroyer jusqu'au haut de la plateforme. Donc le visa pour accéder et l'élitroyage coûtent 1500 euros. Donc si vous voulez accéder là-haut, il faut déjà débourser 1500 euros. Alors pour terminer ce petit tour d'horizon mondial avant de passer à nos exemples français, il faut voir une chose, il y a toujours des petits malins, je vous l'ai dit, les revendications terrestres devenant difficiles, eh ben, l'espace s'ouvre aux audacieux. Il n'y a plus rien sur Terre, eh ben, allons dans l'espace. Alors, à partir de 1948 et jusqu'à sa mort en 1970, donc ça fait quand même un certain temps, alors l'Américain James Thomas Mangan représentait sur Terre, il s'était déclaré représentant sur Terre, de la nation de Celestia, voilà la nation, la micronation Celestia, qui comprenait tout l'espace extra-atmosphérique. Donc c'est quand même vaste. Hein. Et il diffusait des timbres, des billets, de la monnaie et des titres de propriété. Alors bon, c'était pas très cher, mais multiplié par nombre d'acheteurs, vous imaginez combien ça pouvait représenter. Alors, par exemple, on a un autre exemple. En 1990, le Californien Dennis Hopp rédige une constitution pour la Lune. Et il se proclame ambassadeur lunaire. Alors, il divise le satellite en 3 millions de lots, hein, 3 millions, et il les vend $15.59 la parcelle. Donc, $15.59, c'est pas cher, mais multiplié par 3 millions, ça fait quand même une belle somme. Hein. Et plus une taxe lunaire, quand même, faut pas exagérer, hein, $1.16, et si bien qu'il se retrouve à la tête d'une fortune estimée à plus de $10 millions, jusqu'à temps qu'on lui dise stop, ça suffit maintenant. Et en 2015, une ménagère espagnole, Maria Angeles Duran, fait valoir ses droits en tant que propriétaire du Soleil. Elle se déclare propriétaire du Soleil et elle déclare qu'elle a un certificat signé par un notaire. Mais elle est empêchée dans ses tentatives de vente. Alors, ces tromperies s'exercent sur des personnes crédules, évidemment, ou qui veulent s'amuser en disant « Tiens, j'ai acheté un bout de lune, un morceau de lune », qui au final ne débourse qu'une modeste somme. Hein. Mais beaucoup plus graves sont les agissements alors d'une certaine micronation que malheureusement la police ou même les agents secrets n'arrivent pas à pincer parce qu'ils sont vraiment très malins. Ce sont les agissements du dominium de Melchisédiek. Voilà, dominium de Melchisédiek. Alors, cette micronation a été créée en 1986 par les Pedlay, père et fils, afin de favoriser les escroqueries, hein, et notamment le blanchiment d'argent. Alors, cette opération a été donc créée par les Pedlay, père et fils, et d'ailleurs, l'un d'eux, à ce moment-là, était en prison pour fraude fiscale. Hein, voilà. Alors, pour occuper son temps en prison, eh bien, il a créé une... Alors, les membres de cet État, alors ils ne sont pas beaucoup, mais on ne sait pas trop qui c'est, c'est assez bizarre. Les membres de cet État prétendent qu'il s'agit d'un État ecclésiastique comme le Vatican, une toute petite parcelle, parce que, alors évidemment, le drapeau, là, comprend, vous voyez, des symboles juifs, chrétiens, musulmans, un petit peu toutes les religions. Hein. Mais en fait, et puis Melchisédiek, c'était le nom d'un roi dans la Bible, mais ça correspond à rien du tout. Hein. Le dominium, d'abord, n'a ni église établie, ni religion revendiquée. Et leur localisation change au gré des arrestations des uns et des autres. Ils arrivent toujours à filer entre les doigts de la police, hein, sans qu'on parvienne franchement à les empêcher de luire. Donc vous voyez là, c'est vraiment l'exemple très très négatif de ce que peut être la création d'une micronation. Alors on en arrive maintenant à notre pays, parce que nous en possédons beaucoup, hein, on ne peut pas toutes les évoquer, mais j'ai choisi justement, grâce aux recherches que j'ai pu faire un petit peu ici et là. Donc, on retrouve un peu de choses près tous ces types de micronations avec ces motivations. Sauf qu'il n'y a pas d'escrocs. En France, nous n'avons pas d'escrocs comme la dernière catégorie. Alors, la plus connue d'entre toutes, la plus connue, hein, vous la connaissez peut-être, c'est la principauté d'Arbésie. Alors, l'hôtel franco-suisse de la Cure, ou hôtel Arbésie franco-suisse, surnommé Arbésie, se trouve dans le village de la Cure, juste à la frontière de la France et de la Suisse, hein, sur le plateau des Rousses. C'est pas loin des Rousses. Vous allez aux Rousses et hop, c'est juste à côté. Et donc, juste au niveau du plateau des Rousses, et de l'autre côté de Saint-Sergue, dans le plateau de Vaud. Alors, la position géographique est originale, c'est ce qui explique la création de la principauté. Alors, il faut remonter à 1862 pour comprendre. Alors, par le traité des Dappes, on est sous Napoléon III, en décembre 1862, ce traité ne sera entériné qu'en février 1863. Donc, ça laisse un peu plus d'un an à certaines personnes de réagir. La frontière entre la France et la Suisse est en flou à ce moment-là. On décide, entre la France et la Suisse, vraiment de la fixer. Donc, les deux pays délimitent précisément la frontière, hein, leur frontière dans ces zones mal bordées. Et alors, un certain Pontus, un homme qui était contrebandier de métier, si tant est que c'est un métier, il possédait un terrain, il vivait de contrebande, et il a découvert que ce terrain était à cheval sur la France et sur la Suisse. Alors, il fait ni une ni deux, il fait construire une grange. Comme ça, il y a une installation, il y a une maison. Et comme la frontière ne va être vraiment effective qu'en 63, il fait vite construire cette maison, et hop, il a une maison à cheval sur la Suisse et sur la France. Alors, vous voyez, pour un contrebandier, c'est formidable, hein. Alors, on a beau essayer de lui faire démolir entre-temps, parce qu'on s'est bien rendu compte, on connaissait le type de réputation, mais il ne l'a pas fait. Hein. Et donc, voilà qu'en 1863, il est propriétaire d'un bâtiment à cheval sur la France et la Suisse. Alors là, inutile de vous dire que la contrebande a fonctionné. Alors, à sa mort, en 1895, ses deux fils, trouvant que la bâtisse est quand même pas mal, et ils la font un peu arranger, et ils en font un hôtel. Voilà. Et ils le revendent en 1921, ils abandonnent la gestion de cet hôtel, ils le revendent à Jules-Joseph Arbès, qui en fait l'hôtel franco-suisse, puisqu'il a une partie de son hôtel qui est en France et une partie de son hôtel qui est en Suisse. Mais en 1940, vous voyez que le bâtiment prend une position stratégique tout à fait intéressante. Alors, Max Arbès, le fils de ce fameux Joseph Arbès, qui était déjà vieux, était entré dans la résistance, hein, et il aidait des fugitifs, des résistants, des enfants juifs, des juifs à passer la frontière. Alors, c'était très simple, hein. Il suffisait de les faire rentrer par la France, puis ils sortaient par la Suisse, puisque... Alors, les Allemands, évidemment, se sont vite rendus compte de la chose, mais ils ne pouvaient rien faire, parce que seul le bar et une partie de la salle de service est en France. Donc, ils pouvaient rentrer en France, mais après, ils ne pouvaient pas rentrer en Suisse. Le reste de l'habitation est en France. L'escalier intérieur, il commence en France, mais à partir de la septième marche, il est en Suisse. Donc, s'ils faisaient monter les gens à l'étage, c'était fini, ils ne pouvaient plus rentrer. Hein. Alors, évidemment, on est à la barbe des Allemands qui surveillaient ça, qui étaient bien embêtés. Il a fait tout un tas d'opérations, il a sauvé énormément de gens. Et d'ailleurs, le gouvernement de Vichy va finir énervé aussi, par faire fermer l'hôtel côté français. Donc on ferme l'hôtel côté français. Alors, à la fin de la guerre, il rouvre son établissement qui, alors, chacun des pays, que ce soit la France ou la Suisse, voudrait récupérer l'entièreté de l'établissement à son profit. Il n'y a pas d'accord. Ils se mettent pas d'accord, donc le statu quo reste et l'hôtel reste comme ça. Il y a une partie qui est en France et une partie qui est en Suisse. Et alors, comme on ne sait pas trop, le bâtiment est déclaré extraterritorial et ils payent une partie de leurs impôts en France et une partie de leurs impôts en Suisse. Et puis voilà, on s'arrange comme ça, puisqu'on n'a pas trouvé d'autres moyens d'arrangement. Alors, Edgar Faure, qui à ce moment-là est député maire de Saint-Claude et qui aime bien se balader dans le département et qui aime bien jouer aux cartes, vient jouer souvent aux cartes chez... et puis il est ami avec Max Arbez, et il le taquine et il lui dit « Mais finalement, tu habites dans ton propre pays, tu habites en Arbésie hein ?» Alors, eh ben, Max Arbez dit, ben oui, c'est pas bête comme idée. Et donc, en 1958, il décide de faire de son hôtel une micronation et il se proclame prince Max Ier d'Arbésie. Voilà comment on en est. Alors, il se choisit un drapeau de forme triangulaire, comme d'ailleurs son bâtiment, jaune et avec un épicéa rouge au milieu qui rappelle les productions de la forêt. La principauté a sa monnaie, la roupie, mais la principauté accepte l'euro et le franc suisse. Hein, vous pouvez payer en deux. Alors, la brasserie est à moitié en France et à moitié en Suisse. La chambre 12 a un lit en France et un lit en Suisse, vous voyez, les oreillers. La douche est en France. Les chambres 6 et 9 ont un lit en Suisse et un lit en France, et ainsi de suite. Voilà. Alors... Max Arbez a fait du président. Alors voici la princesse actuelle et le prince actuel. Alors ce sont les petits neveux de Max. Alors, c'est la princesse Bérénice, c'est elle qui fait la cuisine. Hein. Et puis son frère, voilà. Et puis là vous voyez la princesse Bérénice avec un hôte de Marc. Là après, voilà. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Alors, nous avons occupé une chambre où le lit était en Suisse. Dans l'entrée, la salle de bain et le petit bureau étaient en France. Et il y avait une partie de la penderie qui était en Suisse et une partie de la penderie qui était en France. C'était très amusant. Et alors, ils sont vraiment très gentils, ils sont adorables. Alors, des deux côtés, vous avez des Français et des Suisses qui viennent. Voilà. Alors, Max Arbez a fait du président Charles de Gaulle le premier citoyen d'honneur de son État, parce que Charles de Gaulle était venu le saluer, étant donné qu'il avait aidé des résistants et qu'il avait été très utile. Le 9 décembre 1961, l'hôtel franco-suisse a été choisi pour accueillir des négociations aux accords d'Évian, pour mettre fin à la guerre en Algérie. Les Français sont rentrés par la France et les Algériens sont rentrés par la Suisse, dans l'autre porte. Voilà, ils se sont retrouvés au milieu. Et le 22 avril 2012, Max Arbez a été reconnu à titre posthume juste parmi les nations pour tout ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est une très belle histoire. Autre micronation connue en France, c'est la République du Saugeais. Alors elle est située entre Morteau, pays de la fameuse saucisse, Pontarlier et la Suisse, voilà. Et elle réunit 11 communes. Donc, c'est un territoire quand même un petit peu plus grand. Et sa capitale est Mont-Benoît, là où il y a une très belle abbaye, d'ailleurs, le village principal. Alors, superficie de 128 km² et peuplée de 5000 habitants. Alors, en 1947, le préfet Dudoux vient à Mont-Benoît pour y présider un conseil de révision. Vous savez, avant le service militaire, il y avait un conseil de révision. Et à l'heure du déjeuner, il se rend à l'hôtel de l'abbaye, où il y a le patron Georges Pourchet, et Georges Pourchet lui demande pour plaisanter s'il a un laissez-passer pour rentrer dans la République du Saugeais. Alors le préfet dit, mais pourquoi? Ah, lui dit, parce que nous sommes dans un territoire tout à fait spécial. Alors en effet, cette partie de la Franche-Comté a été pendant longtemps, au moment du Moyen-Âge, a été défrichée, il y avait beaucoup de forêts, elle a été défrichée par des colons venus de Suisse alémanique, vous voyez, de Suisse germanique, et qui ne répugnaient pas à la tâche, mais qui restaient entre eux, d'abord parce qu'ils parlaient pas le français, enfin la langue de la région, et puis ils vivaient ensemble, une petite colonie, et qui pendant longtemps ont gardé leurs coutumes et leur propre patois. Donc ils ont décidé qu'ils faisaient finalement une nation un petit peu à part des autres. Alors ce sont ces descendants-là dont Georges Pourchet se revendique. Voilà, mes ancêtres étaient quand même venus d'ailleurs, et ils avaient créé une petite entité spéciale. Alors le préfet qui était un préfet sûrement qui aimait la plaisanterie, lui répond, eh ben, puisque c'est une république doit avoir un président, eh ben, je te fais président de la République libre du Saugeais. Et aussitôt, poursuivant cette plaisanterie de manière amicale, la République s'organise. Alors, drapeau, armoirie, hymne en patois et en français, des timbres, la monnaie, un laissez-passer par cheminée, voilà. Et puis donc un poste frontière, voilà, hein, que contrôlent deux douaniers en uniforme. Alors actuellement, la frontière ne fonctionne que le samedi, hein, parce que les gens travaillent et il faut ces deux personnes en fait qui jouent un rôle. Alors nous, quand on est allé visiter, malheureusement, ils font maintenant des manifestations que pour les gens qui arrivent en autocar. Alors on arrivait tous les deux, on ne nous a pas fait une organisation pour tous les deux, mais on nous a dit, si ce jour-là vous venez et qu'il y a un autocar, vous pouvez vous joindre à eux, mais il n'y en avait pas. Voilà. Alors, ils prennent les gens par surprise, ceux qui organisent le petit itinéraire, ne le disent pas aux gens qui viennent faire la visite. Et alors, l'autocar est arrêté à la frontière, les deux douaniers arrivent, douane, police, on veut voir vos bagages, etc., montrez-nous vos passeports. Alors les gens tirent une tête, et puis en fait, c'est une plaisanterie. Alors, en mars 2001, la République s'est dotée d'une constitution proclamant sa liberté, sa souveraineté et son indépendance, mais entre-temps, le préfet avait changé. Et le nouveau préfet n'a pas apprécié du tout la plaisanterie. Il les a rappelés à l'ordre. Il leur a dit que l'indépendance et la souveraineté, c'était français et c'était pas la République du Saugeais. Il voulait bien tolérer le folklore, mais qu'il n'aille pas au-delà. Alors, après la mort de son mari, c'est son épouse qui a été nommée présidente en 1972. Et maintenant, sa fille, Georgette, a pris le relais. Et depuis 2019, c'est le Premier ministre qui a pris le relais. Voilà. Mais, vous voyez, ça fait partie de ces micronations bâties un petit peu sur une plaisanterie qui a bien amusé tout le monde. Mais maintenant, les jeunes participent moins à ce genre de manifestations de folklore et ils commencent à avoir du mal à trouver des remplaçants pour tel ou tel poste. On voit, ça tombe un petit peu... Alors, l'hôtel d'Arbésis, c'est une famille. Ça reste familial, il y a toujours des neveux, des nièces, etc. Mais là, on sent qu'il y a des difficultés dans le recrutement. Il est fort probable que d'année en année, ça risque de s'éteindre. Alors, la République indépendante de Figerolles, capitale Figerolles, superficie, vous voyez, c'est la plage là, 0,001 km², 10 habitants, monnaie, la figue, ça pousse partout. Alors, cette République démocratique est située dans une calanque, non loin de la Ciotat, et en fait, c'est l'hôtel-restaurant. Alors, déclarée donc micronation de Figueroles en 1956 par un monsieur qui s'était installé là, ancien pilote de l'escadrille Normandie-Niemen avec son épouse Tania. Et alors la frontière, c'est le parking qui est en haut. Vous descendez un escalier de 87 marches qui est le No Man's Land, qui relie le continent à la Calandre. Vous voyez, vous allez descendre les marches, là, France Courage. Et quand on arrive, ils font changer l'heure de sa montre. Comme ça, on passe plus de temps à table, hein, parce que c'est un restaurant. Il y a une heure de décalage avec la France. Hein. On roule à gauche, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il n'y a pas de route. Alors, et la monnaie locale, c'est la figue. Alors, jusqu'à présent, on pouvait payer, enfin, il y a encore pas si longtemps que ça quand même, on pouvait payer la note en figue, et les patrons, ou en partie de figue, et les patrons faisaient des confitures avec. Mais maintenant, les tarifs ayant augmenté, donc, alors au début, 4 figues mûres, ça faisait 1 euro. Et actuellement, 100 grammes de figues mûres, ça fait 1 euro, et la monnaie n'a cours que du 1er août au 1er septembre. Avant et après, il faut quand même payer en argent. Alors, jadis, la cuisine était russe, parce que l'autre, il était d'origine russe, mais les petits-enfants du fondateur qui sont restés font du poisson grillé, enfin, des choses comme on fait dans les calanques. Alors, si ces initiatives peuvent faire sourire, elles répondent souvent au besoin de défendre coûte que coûte des zones dévitalisées. Et c'est pourquoi je terminerai par ces exemples-là, ou par des problèmes plus urgents, parce que là, sous le folklore, sous la joie de vivre ensemble, etc., il y a quand même des motivations tout à fait valables et importantes. Alors, c'est le cas de la principauté de Las, dans le Béarn. Alors, le maire avait tenté de faire de sa petite commune un Monaco ou un Andorre. Donc, il avait réclamé des avantages fiscaux à l'État français, qu'évidemment, il n'a pas accordé, bien entendu. Hein. Alors, du coup, vexé, le maire, qui est toujours maire d'ailleurs, Jacques P. de Honta, c'est un nom bien basque, en 2014, il proclame l'indépendance du village. Et il en fait une principauté. Alors, en effet, il s'alarme. Il n'y a plus de boulangerie. La fermeture de l'école primaire, parce qu'il n'y a plus d'enfants. De 790 habitants en 1875, on est passé à 140. Vous voyez, il s'inquiète pour sa municipalité. Alors, il a déjà bien eu des idées. Hein. Il a lancé, d'ailleurs avec succès, le Grand Prix international des 3 heures de la brouette. Vous voyez là. Mais ça n'a pas suffi. Ça attire du monde un petit peu, mais pas toute l'année. Bon, il faut dire que le personnage est quand même haut en couleur. Hein. Il a couru le Paris-Dakar en tracteur pour soutenir la fondation Balavoine. Vous savez, la fondation pour creuser des puits. Voilà. Alors, du coup, il dit qu'il faut y aller fort, là, cette fois-ci. Alors, il décrète Las le centre du monde et il fait ériger des panneaux indiquant toutes les grandes destinations. Donc, Ankara, 2818 km, Washington, 6341, Moscou, 3052, et ainsi de suite. Puis, il crée un passeport et un poste frontière. L'évêque de Bayonne, Monseigneur Haillé, accepte, il lui écrit, et il accepte d'être le premier comprince. Vous voyez, comme à Andorre, en Andorre, il y a comprince. Et le président de la République est le deuxième. Quoique le maire a dit, je lui ai écrit, mais il m'a jamais répondu. Alors, c'est pareil, qui ne dit mot consent. Hein. Bon, voilà. Alors, en 2017, le conseil municipal vend le très beau château de Las, qui date du XVIIe siècle. Voilà, il est là, le château, il est beau, hein. Et il est racheté d'abord par un ancien ingénieur, devenu chef d'entreprise et riche, qui devient aussi l'ami du maire. Et ils s'entendent comme de leur enfoir. Alors, il décide de faire de la bâtisse le château des énigmes, avec un jeu de piste sur le thème des trois mousquetaires. Et ils ouvrent aussi deux ailes avec des jeux d'escape game. Et finalement, en 2019, les lieux ont accueilli 50 000 visiteurs. Et vous voyez, ça fait quand même une bouffée d'oxygène dans la municipalité. Alors, pour se rendre au château, il faut utiliser le Las Vegas Boulevard. Et désormais, alors ils ont eu des idées supplémentaires, le bâtiment peut être loué pour des mariages. Alors, on propose trois formules. Châtelaine, c'est la plus modeste. Princière, c'est déjà un degré au-dessus. Royale, alors là, royale, vous avez carrosse, et puis elles ont toutes une réception au château, pareil avec un degré. Le potentiel d'hébergement est de 200 lits. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire des cérémonies de mariage. Et puis alors, comme ils sont futés aussi, on peut organiser des cérémonies de non-mariage pour les couples en union libre. Donc, on peut venir faire une cérémonie de non-mariage, même si on n'est pas marié. Alors, depuis 1996, il a inventé aussi ce qu'on appelle les transhumances musicales, qui réunissent entre 7000 et 12000 fans et qui font intervenir des chanteurs connus. Donc, les projets ne manquent pas. Du coup, on a rouvert une boulangerie, on va installer une crèche pour les enfants des employés du château, on a contacté, et il paraît que c'est en bonne voie, des médecins pour l'ouverture d'un cabinet médical. Le maire a aussi aidé une jeune femme qui voulait acheter des terres maraîchères sans encore avoir franchi le pas de les cultiver, donc il lui a vendu. Puis finalement, voyant le dynamisme du village, elle est venue s'installer, séduite par la vitalité du village. Donc vous voyez, il y a quand même des projets qui sont intéressants, qui sont valables, et il faut reconnaître qu'il y a la complicité du maire. Alors, ces tentatives, toutes ces tentatives, dont celle-là, se veulent au service d'individus, mais l'une d'entre elles est particulièrement originale parce qu'elle se veut au service des abeilles. Alors, une micronation, qui a été fondée pour les abeilles. Alors, Jonathan Gobert, dans le civil, il contrôle les sites industriels sensibles. Donc, il a un métier quand même assez important. Et dans le privé, il règne sous le nom de Jonathan Ier sur la principauté d'Antophilia, alors tout simplement du grec Antos, fleur, et Philo, qui aime. La principauté a été créée le 4 août 2020. Le prince habite Véron, dans l'Yonne, à 10 km de Sens, donc pas très loin de Paris. Sa maison est le siège principal de la micronation. Alors, elle aussi, cette micronation, elle a son drapeau, son blason, ses timbres. Elle a même un hymne intitulé « L'abeille » qui a été composé par quelqu'un. La principauté compte 10 citoyens. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Mais le traité de Véron a été signé par 14 micronations. Donc, vous voyez, toujours par le biais d'Internet, il y a d'autres micronations ou d'autres personnes qui s'y joignent, intéressées par le combat du prince pour les abeilles et qui s'engagent à ses côtés. Alors, pourquoi? Eh bien, Jonathan Gobert, qui adore les abeilles parce que son arrière-grand-père, son grand-père et son père étaient ou sont apiculteurs, lui-même est apiculteur amateur, il a 9 ruches dans la forêt proche, eh bien, il a constaté que dans les années 1980, les pertes au sein des colonies étaient de 5 à 10% et actuellement elles sont de 20 à 30%. Et c'est une catastrophe, parce que ça va continuer à baisser, puisque les insectes pollinisateurs, outre les abeilles, il y en a d'autres, assurent la pollinisation de 90% des arbres fruitiers. Donc moins il y aura d'abeilles, plus il y aura de risques pour la flore et pour les arbres. Alors, un article de leur traité, appelle à l'interdiction des néonicotinoïdes et appelle à l'utilisation, au contraire, d'engrais naturels et à l'ensemencement de plantes mellifères et de fleurs sauvages qui vont attirer les abeilles. Alors, beaucoup moins philanthropique est l'empire de la basse Chênaie, vu d'un mauvais œil par d'autres micronations pour son luxe. Alors voilà la famille, avec un des princes, il n'y a pas l'autre. Pour son luxe tapageur, voire de mauvais goût. Personnage en couleur. Alors, il a été créé par Franck Sanson et son épouse Delphine en 1996 à Saint-Thual, en Ille-et-Vilaine. Alors, l'État, l'empire de la basse Chênaie, donc c'est un empire, est installé dans la propriété familiale de 11 hectares. Voilà, c'est une micronation de 11 hectares. Donc c'est une petite micronation. Mais elle est très, très, très argentée. Franck Sanson est très riche. Alors, il est avocat. Il est à la tête de 2 cabinets très prospères, l'un à Paris et l'autre à Rennes. Et il est vraiment très, très riche. Alors, l'empereur Franck-Marc Ier, puisqu'il s'est déclaré empereur Franck-Marc Ier, possède une écurie de belles voitures. Il aime les belles voitures, comme celles qu'on voit sur le circuit de voiture de Monaco. Le palais, c'est une ancienne ferme rénovée à grands frais et très luxueuse, qui comporte, par exemple, une pièce japonaise, beaucoup japonaise, vous aimez le Japon, magnifiquement décorée, une salle du trône, il y a une salle du trône, avec un immense fauteuil clinquant, une piscine intérieure, un espace fitness avec sauna, une discothèque, avec un néon rose à l'américaine, et un salon fumeur pour cigares de Havane, la salle Che Guevara. Voilà. Alors, l'article 3 de la Constitution, parce que là aussi il y a une Constitution, bon, il peut l'écrire, il est avocat, hein, déclare, je cite, « L'un des gros objectifs de l'État de la Basse-Chênaie est de s'amuser un peu dans un monde où, globalement, les hommes ne pensent qu'à s'entretuer. » Voilà. Et quand il entend des critiques, parce qu'il y en a, bien entendu, parce qu'ils ne sont pas très discrets, hein, vous voyez, il dit de toute façon, les gens, moi je les en... Alors, je dis piquine, mais continuez par autre chose de plus grossier. Hein, voilà. Je fais ce que je veux de mon argent. Alors, l'Empire compte 380 citoyens. Voilà. Des amis, etc. Alors, Franck Marc Ier est fasciné par le personnage de Napoléon Ier. Alors, vous comprenez pourquoi il s'est déclaré empereur. Alors, il s'est mis aux Corses. Il a acheté tous les livres qu'il pouvait sur les livres d'histoire qu'il pouvait sur son idole, hein, et il a appris tous les rites de la cour impériale. Alors il s'est fait tatouer un immense F dans le dos, F comme Franck et comme force. Hein. Les six poules pondeuses, il y a six poules pondeuses, elles ont leurs œufs marqués aussi d'un F. À chaque fois qu'elles pondent, paf, on marque un F sur le. L'impératrice Delphine a dans le dos un tatouage de la couronne impériale. Vous voyez, hein. Les princes, le prince, j'ai sauté là. Alors, le couple, ils ont deux enfants, les deux princes, Victor et Octave, 25 ans et Octave, 20 ans, ainsi que les 40 dignitaires de l'Empire ont tous un habit d'apparat. La garde-robe de tout ce petit monde est évaluée à 200 000 euros. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Jean-Michel Krans, par ailleurs professionnel du tourisme, est comte, alors il s'appelle Jean-Michel Krans dans la vie courante, mais dans l'Empire de la Basse-Chênaie, il est comte de la Fiesta del Sol et ministre de la Marine et des Mers Intérieures. Comme ça, on en avait beaucoup en France. Bon, bref. Prince de la Chênaie et duc de Boukobza, Frédéric Beaujard, qui est l'ancien premier maître d'hôtel du Ritz, est devenu ministre du budget et des folles dépenses. Yves Guinut, qui avant était patron d'un atelier de costumes à Dinard, il vendait des costumes, vous voyez, pour messieurs, a réalisé une quarantaine de tenues pour le souverain. La tenue d'empereur dans laquelle il se fait prendre en photo en tant qu'empereur, a coûté 4000 euros. Bon. Et évidemment, comme Napoléon Ier, il s'est fait sacré. Voilà. Donc, la parure du sacre, identique à celle portée par Napoléon, avec une cape de 24 mètres carrés, ornée d'abeilles en fil d'or, vous voyez tout ça, a coûté 40 000 euros. Voilà, 40 000 euros. Et le 29 juillet 2006, alors c'est ça surtout qui a fait jaser... Il trouvait qu'il était un peu matuvu. Un hélicoptère a déposé Franck à la Basse-Chênaie, habillé en prêtre. David Le Gall, qui est son ministre des cultes et dont la devise est « Crois, je fais le reste », l'a couronné empereur. Voilà, il y a eu un... Voilà. Alors, donc, vous voyez un exemple de quelqu'un qui est riche, donc qui fait ce qu'il veut de son argent, hein, c'est sûr. Créer une nation factice, alors là, c'est une autre motivation qui est assez originale pour notre pays, peut répondre à l'amour de la poésie. On va en voir un exemple. C'est le cas d'Olivier Touzeau. Alors, il est cadre supérieur dans la collectivité territoriale, dans une collectivité territoriale, dans le civil, donc vous voyez, c'est quand même pas... C'est quelqu'un qui a fait des études. Et il est empereur de l'Angialistan. Du hongrois Angial, ange, il a fait Langzo, l'empereur, hein, donc il parle parfaitement le hongrois, et de Stan, qui veut dire le lieu en persan. Alors, quel est le domaine de l'Ankalistan. C'est très simple. L'Ankalistan a la ligne d'horizon pour territoire. Voilà. Chaque fois que vous voyez la ligne d'horizon, c'est l'Ankalistan. Sa superficie est donc infinie. Suivant la phrase de Saint-Exupéry, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, se regarder ensemble dans la même direction, hein, que vous connaissez, Olivier et sa future épouse Clotilde décident le 31 janvier 1999 de vivre ensemble et donc fondent aussitôt cette micronation puisqu'ils vont partager le même horizon tous les deux pendant toute leur vie. Alors, l'empereur a la fibre poétique, je vous ai dit que c'était une micronation de poésie. Il a composé un ouvrage, d'ailleurs, qui s'appelle « Odes et légendes du pays des anges ». En gaël, c'est « ange ». Il s'en est inspiré, ainsi que d'autres textes connus, pour donner corps à son état. Alors, par exemple, les armoiries évoquent des vers de Mallarmé, deux lions qui s'offrent chacun une rose. Voilà, vous les voyez, les deux lions qui s'offrent une rose. Alors, voici les vers de Mallarmé, tirés du poème de « Aussi cher au loin » de Mallarmé. « Toujours que ton sourire éblouissant prolonge la même rose avec son bel été qui plonge dans autrefois et puis dans le futur aussi. » Vous voyez, c'est une belle... Il adore le texte voyelle de Rimbaud, vous savez qui commence par A-E-I-O-U. Et il a créé donc la devise de la patrie, reprenant le vers de Rimbaud, A-E-I-O-U, qui veut dire A-Ankalistan, E-Est, I-Imperare, O-Orbi, U-Universi. Il revient à l'Ankalistan de régner sur le monde. La micronation a évidemment aussi son drapeau, sa monnaie, ses timbres, des cartes postales, un sceau, un passeport. L'ambassade est au domicile de l'empereur, qui habite tout simplement à Fontenay-sous-Bois, dans la banlieue parisienne. Alors l'uniforme du souverain est un uniforme d'enseigne de vaisseau qu'il a acheté dans un surplus militaire. Et il est ceint d'une écharpe bleu ciel ornée d'un sextant. Voilà. Et puis madame a pris une de ses robes du soir. Alors, l'Empire comporte 39 nationaux, rien que des proches et des amis. Hein. Mais les gorilles et les orangs-outans, espèces en voie d'extinction, ont été déclarés citoyens d'honneur. Hein. Ils sont citoyens d'honneur de l'Empire. Pas de titres nobiliaires comme d'habitude, baron, comte, marquis, tout ça. Non, pas du tout. Eux, ils ont une hiérarchie différente, assez originale. Alors, pas si grave, grave, plutôt grave et super grave. Donc, Frédéric C., on donne pas le nom de famille, qui est ami de l'empereur et ingénieur dans le civil, est super grave et ministre de l'air comprimé. Sa mission principale est de vérifier que l'horizon est bien droit. Lionel Fourré, réalisateur de documentaires dans la vie, écoutez bien, est ministre des profondeurs des champs. Il photographie et filme ce qui concerne l'Empire pour Facebook et Instagram. Ben, il faut dire qu'il fait de très belles photos, hein, si on regarde certaines photos sur le site. Fabien C., qui est cadre de santé dans le public, arbitre les décisions gouvernementales. Alors, quand ils ne sont pas d'accord, c'est lui qui fait l'arbitre. Alors, il est ministre de la pierre et des ciseaux. C'est-à-dire que pour prendre une décision, il propose le fameux jeu Shifumi, vous savez, pierre et ciseaux. Voilà. Alors, le quatrième poste n'a pas trouvé preneur. On va comprendre pourquoi. C'est le portefeuille des ordalies, qui, comme au Moyen-Âge, permet de juger les ennemis par l'emprise du feu ou de l'eau bouillante. Mais bon, il n'a jamais trouvé personne et l'empereur dit qu'il n'y en aura certainement jamais. Alors, les citoyens de l'Ankalistan veulent contribuer à maintenir la planète en bonne santé. Vous voyez, eux aussi ont des visées écologiques. Et ils ont revendiqué, en octobre 2013, les vortex de déchets du Pacifique. Hein, vous savez, toutes ces ordures qui se promènent. Et donc... dans le Pacifique, l'Atlantique et l'océan Indien. Et donc, ils disent qu'ils sont la seule micronation qui milite pour la disparition de son territoire. Parce que ce sont des ordures. Et récemment, ils ont publié un livre de photos. de photographie d'horizon. Alors les voilà, là, les plaisantins, dont les bénéfices sont versés à la fondation enfin, ça s'appelle en anglais Foundation of the Ocean Cleanup, donc nettoyage de fondation pour le nettoyage des océans. Alors, pour terminer le tour de ces pays de fantaisie, rappelons aussi qu'il existe des communes libres. On en a évoqué avec Christiania et Usupus, et puis on parle de Montmartre. Alors, la plus célèbre et la plus ancienne est Montmartre. Mais vous allez voir, il y en a beaucoup d'autres. En 1920, les Montmartrois, poussés par des artistes célèbres d'ailleurs, réclament leur indépendance. Et ils constituent une commune libre et organisent un vote pour choisir leur maire. Alors, c'est la ligne anti-gratte-ciel menée par Jules de Pacqui et le fameux Francisque Poulbeau qui gagne. Alors, l'idée, c'est de préserver le territoire de l'assaut des promoteurs, de vivre dans la fraternité, de venir en aide à la population ouvrière qui, à ce moment-là, maintenant, ça s'est boboisé, hein, c'est très chic d'habiter Montmartre, mais avant, c'était habité par des populations pauvres ouvrières. Donc, de venir en aide à la population pauvre installée sur la butte, de diverses façons. Alors, par exemple, création d'un dispensaire où les soins sont gratuits, vous voyez, des choses comme ça. Alors, la commune a son hymne, ses timbres, son journal qui s'appelle La Vache Enragée, son pompier, son garde champêtre et ses fêtes. Voilà, tous les ans, puis les fameuses vendanges. Hein. Actuellement, elle est toujours active, mais il y a eu deux dissidentes. La commune libre de Montmartre, la République de Montmartre. Alors, à l'intérieur du groupe, il y a eu deux dissidences, mais tout le monde s'entend bien et on fait la fête en même temps. Alors, à l'exemple de Montmartre, plusieurs quartiers de Paris se sont constitués en commune libre. Vous en avez à Belleville, vous en avez à Mélisle-Montant, à Tolbiac, entre autres. Et il en est de même dans beaucoup d'autres villes de France. On dénombre actuellement 135 communes libres dans toutes les villes de France. Alors, quelques exemples. Vous avez la République des Canuts à Lyon, la commune libre du Boulingrin à Reims, qui a d'ailleurs été très active pour faire restaurer. Là, ce que vous voyez, en fait, ce sont les anciennes halles qui étaient complètement en ruine et qui ont été restaurées grâce à la commune libre du Boulingrin. Ce sont d'ailleurs les halles du Boulingrin. La République du Pont-Bagnat à Nice, la commune libre du Bouffay à Nantes, la commune libre du Molard arrive dans le bassin de Grenoble, qui est très très actif, qui est très connu aussi. Je vous rappelle que le terme Molard en savoyard désigne une colline, un mont. Alors, elle est très active et d'ailleurs elle est beaucoup aidée par la municipalité présente. Alors elles ont toutes des signes spécifiques, ou tous ensemble, ou par moitié, timbre, drapeau, hymne, costume, journal, rite, des devises, humour, bonté, gaieté. Une autre devise, faire le bien en s'amusant. Ça, c'est la devise de la commune libre du Molard près de Grenoble. Et finalement, ces actions, alors ils organisent des banquets pour les vieillards, des soulons de jeux pour les enfants à Noël, des aides, des sorties pour les enfants qui sont pas allés à la mer ou qui sont pas allés dans tel ou tel endroit. Enfin, vous voyez, toute une vie, œuvre philanthropique, amicale, etc. Et avec l'idée de vivre dans la bonne humeur et puis dans le partage. Alors, donc. Ce sont finalement des manifestations fort sympathiques et amicales. Alors, une mention spéciale, et on finira sur cette mention spéciale, pour la principauté d'Aigues-Mortes, dans le Gard, créée en juin 2011, particulièrement dynamique et réputée dans toute l'Europe, car les micronations entretiennent entre elles des liens aussi. Hein. Et les micronations étrangères sont totalement éblouies par ce qu'ont pu faire les gens à Aigues-Mortes. Alors, en fait, au départ, la micronation n'a été conçue que pour durer le temps d'une fête bien arrosée entre joyeux lurons. Et finalement, le projet a pris une dimension plus sérieuse, comme ça. Alors, à l'origine, vous avez à la tête un groupe d'amis, dont Jean-Pierre Pichon, qui est cadre supérieur dans la banque, vous voyez, c'est quand même pas, et Olivier Martinez, qui est chef de cabine dans une compagnie aérienne. Alors, ils décident de faire d'Aigues-Mortes une principauté à la façon Monaco, dont la devise sera « voir la vie en rosée ». Voilà. Et là, vous voyez, c'est Olivier là qui est. Alors, mais finalement, ils sont tellement dynamiques et tellement rigolos, ça suscite un tel enthousiasme que finalement, artisans, commerçants, habitants trouvent le projet original et adhèrent à cette idée, voyant là l'occasion de redynamiser la ville, qui est comme toutes les villes moyennes en perdition, et l'occasion aussi de fédérer les bonnes œuvres, les bonnes idées, et tout le monde se met à la tâche. Alors, très rapidement, ça a pris vraiment de manière fulgurante, très très rapide, la principauté se trouve dotée de sa radio-télévision, de sa presse. Vous avez deux journaux, le Principautin et Eggmatch. Elle rédige sa constitution, son hymne, sa devise, dessine ses armoiries, son drapeau, émet des teints. Chaque dernier dimanche de septembre a lieu le grand bal du Godet d'Or, présidé par le couple princier, Jean-Pierre IV et Olivia Eugénie du fermoir de Montsac. Vous avez tous reconnu Olivier le... Et Olivia Eugénie du fermoir de Montsac est adorée par les gens d'Aigmont. Bon, au-delà de la fantaisie, la principauté a fait aboutir des projets très sérieux. Alors, chaque année, le prix Constance est remis à une personne ayant eu une action significative pour la ville. En juin 2016, la principauté a soutenu et cofondé un festival de musique classique internationale, donc qui perdure, qui a lieu tous les ans. En 2020, elle a collecté des fonds pour la restauration d'une chapelle du 15e siècle, donc vous voyez, ça a pris une ampleur. Et en 2017, le prince Jean-Pierre IV, alors pourquoi IV, parce que c'est le premier, mais enfin bon, ça fait rien, pour faire vieille descendance, et qui travaille dans la banque, je vous rappelle, la banque n'a pas de secret, a mis en place une monnaie locale, le flamand. Bon, on est pas loin de la Camargue. Alors un flamand égale un euro, adopté par une soixantaine de commerçants pour favoriser les circuits courts et la vente de produits locaux. Donc si vous voulez acheter des produits frais locaux et des produits, vous pouvez payer en flamand. Donc c'était le dernier exemple, parce que non seulement il est drôle, mais vous voyez, on voit que vous avez toute une dynamique où un groupe de gens qui jusque-là vivaient un petit peu à l'écart vont se retrouver solidaires, soudés dans des actions intéressantes. Alors, avant de conclure, on peut annoncer la naissance le 1er décembre 2021, donc c'est la dernière micronation qui a été fondée, j'ai vérifié, il n'y en a pas eu depuis, à 12h26 exactement, du Slow Jamastan, dernière micronation recensée, qui a été fondée par le célèbre DJ Randy Williams. Voilà. Donc c'est un DJ qui a fondé le Slow Jamastan. Voilà. Alors après de nombreux voyages autour du monde, parce que l'idée lui trottait dans la tête, qui lui ont permis de comparer différents régimes politiques, hein, il a tout étudié, parce qu'il voulait créer son État, Randy Williams a acheté une parcelle de 4,5 hectares dans le désert de Californie. Alors ça se trouve dans le désert de Californie, voilà. Et il a, à 2 heures de route de San Diego, 2h30 de route, il a créé son propre État, dont il s'est proclamé le sultan, et la capitale, c'est Dublandia. Alors la capitale, c'est un immense bureau en bois qu'il a acheté, qui est installé en plein désert, et puis voilà, c'est la capitale. Alors, il délivre des passeports, il a son drapeau, son hymne national, sa monnaie, le double. C'est une dictature soumise à des lois strictes. Attention, interdit de porter des crocs, des sous-vêtements, de placer ses pieds sur le tableau de bord d'un véhicule et, grave erreur, de faire des fautes d'orthographe, sous peine d'être banni si on ne réussit pas le test écrit de rattrapage. Et puis d'autres... 500 personnes ont rejoint le pays, alors tous des joyeux lurons qui s'amusent bien entendu. En fait, qu'a voulu faire Randy Williams? Eh bien, il a voulu tout simplement dénoncer ce que sont les vrais dictateurs, culte de la personnalité, tyrannie, loi absurde et humiliante. Voilà. Et donc, c'est un contrario, une manière de faire rire des dictateurs. Alors, nous pouvons conclure, arriver à ce point. Donc, vous avez vu que les motivations de ces souverains d'opérette sont diverses. Goût pour la fête et la plaisanterie pour certains, goût du lucre pour d'autres, égo dilaté pour d'autres encore, prolongation des jeux de l'enfance entre amis, création artistique, ou état vu comme une œuvre d'art, voilà qui peut expliquer donc une fantaisie débridée. Mais, et je reviens à Bruno Fuligni, il y a des motivations plus sérieuses prises en compte par les politologues, et Bruno Fuligni en est un. Il est, je vous rappelle, maître de conférence à Sciences Po et historien, et il déclarait, alors il a écrit entre autres un livre qui s'appelle « L'État, c'est moi », ça veut tout dire, il déclarait en août 2021, au moment où il a écrit le dernier livre dont vous donnera le titre à la fin du document, voilà ce qu'il déclare. Les micronations méritent notre attention, car leur aspiration naïve à une forme suprême de liberté s'inscrit parfaitement dans notre époque, où le gouffre entre citoyens et élus se creuse. N'oublions pas la grève massive des isoloirs lors des élections régionales de juin. Et que dirait-il en parlant des élections de juin 2022 ? En peu de temps, les administrations technocratiques et hyper-centralisées ont géré, un peu partout dans le monde, la vie publique et privée, avec à l'esprit, à l'horizon, uniquement la rentabilité. Résultat, nous avons la dévitalisation de nombreuses zones, pas seulement dans les régions rurales, aussi dans les villes, c'est un problème qui se pose. Une urbanisation excessive, sans chaleur humaine, sans qu'on prenne en considération les individus. Et l'impression pour beaucoup de citoyens d'être abandonnés. Alors finalement, c'est la question qu'on peut se poser, voir la planète respectée, vivre dans un territoire dynamique, si petit soit-il, en bonne harmonie citoyenne. Est-ce loufoque ? Est-ce irréalisable ? Je vous remercie de votre attention.
Vous avez sans doute découvert des tas de choses que vous ignoriez, hein, c'est sûr. Et merci beaucoup. Et une conclusion qui peut-être, en effet, peut nous faire réfléchir, car nous avons beaucoup aimé aussi la conclusion. Alors, le livre, donc, c'est pour ceux qui ne voient pas qui sont au fond, le premier atlas des micronations, royaume d'aventure.
Et puis, il y a donc le premier que j'ai cité en début, L'État, c'est moi, du même auteur.
Mais il y en a qui l'ont lu, peut-être, celui-là, je ne sais pas, L'État, c'est moi. En tout cas, c'est suggestif. Bon, est-ce qu'il y a une question ?
Alors, je n'ai pas de question, mais j'ai une proposition. C'est que le 6 avril, le jour de l'Assemblée générale, nous proclamions l'existence d'une nouvelle République des lettres et du savoir, l'UTELI, dont la capitale serait la salle Pierre de Droit. Le territoire, eh bien, les adresses des adhérents de l'UTL, territoire extensible. Eh ben, Madame serait l'ambassadrice.
Félicitations.
Et notre présidente serait, bien entendu, Geneviève.
La reine de l'UTL. Merci, ça suffit. Toi, tu as...